prendre tout le football français sur le dos.
Putain, non, non. Et chaque fois, il y a une petite phrase. Assassin. C'est toujours assassin. 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 Assassin.
Assassin. Si j'ai un petit mot à dire à Rosy, bah, qui marque des buts et qui se la ferme un peu sur le banc. Je pensais que les saules pleureurs, c'était au bord de la rivière. Il y en a aussi dans les stades.
Faut arrêter de se prendre pour Calimero, ça suffit, ok? Allez, ciao, bonne soirée.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot, Nicolas Villas.
Entouré de Jonathan McCarthy, d'Anthony Quintela, j'allais dire Gonsalves,
en spoiler. Et moi, je passe à Quintero.
Hein?
Bizarre.
Il est quand même beaucoup plus en forme, je pense, Anthony, que...
Non,
que...
pas en forme, il est plus menu.
Quintero,
costaud.
Que faire Quintero, il est un peu, tu vois. Il aime bien manger, tu vois.
Ouais, mais il est costaud. Il faut le bouger aussi, hein.
Cet après-midi, Marseille s'est imposé 3-1 Guingamp. Ce soir, Nîmes a battu Bordeaux 2-1. Nice s'est incliné à domicile 1-0 face à Caen. Et Montpellier est allé gagner 3-1 à Strasbourg avec notamment un doublé d'Andy Delors. Il sera avec nous dans quelques instants dans l'after. Avant cela, accueillons Aurélien Tiercin qui nous a fait vivre ce match sur RMC ce soir. Salut Aurélien.
Salut messieurs. Bonsoir.
Salut Aurélien.
Alors Aurélien, t'as suivi les confs de presse et ouais. De Derzakarian et de Loret, de Thierry Loret. Tiens, commençons par Derzakarian. J'étais en train de lire là des déclarations de Michel Derzakarian. Alors il dit la Coupe d'Europe, on y pense, dit-il.
Absolument, absolument. Alors déjà il avait sa joie de vivre légendaire, mais avec le petit sourire qui allait bien quand même, parce que c'est une belle victoire ce soir. Montpellier qui est 6e avec 3 points de retard sur l'OM, et il a dit on pense à la Coupe d'Europe depuis l'hiver dernier, après la bonne première partie de saison de Montpellier. Donc depuis tout ce temps-là, malgré un petit peu le creux de la vague, Michel Derzakarian pensait toujours à la Coupe d'Europe, et il a raison, parce que là dans le calendrier il y aura Saint-Etienne, il y aura Marseille, donc les deux adversaires potentiels pour cette Coupe d'Europe. Il y aura même un déplacement au Vélodrome pour la dernière journée. Donc évidemment que Montpellier pense à la Coupe d'Europe, et c'est une vraie belle prestation qu'ils ont livrée ce soir, les Montpelliérains, avec une belle base défensive, avec toujours Hilton, Mendes et Daniel Congré très solides. Oyongo, Aguilar sur les côtés, ça va vite, ça centre bien. Et puis Delors, il a marqué deux buts avec Florent Mollet derrière et Gaëtan Laborde. C'est une vraie belle équipe, ça joue pas mal. Alors on est un petit peu moins fort défensivement, mais on marque pas mal de buts. Et ils pensent voilà, la Coupe d'Europe. Michel Derzakarian, il l'a dit assez clairement, voilà, on va pour gagner Saint-Etienne, on va pour gagner à Marseille pour se qualifier pour la Coupe d'Europe.
Ouais, il est quand même balèze, hein, le calendrier à venir, hein, de Montpellier. Parce que tu le disais, il y a Marseille et Saint-Etienne, il y a le PSG aussi, hein, la semaine prochaine. Hein.
Ouais, à la Mosson, et Michel Derzakarian veut faire le plein, notamment à domicile, pour espérer jusqu'au bout. Et puis là, il a fait un coup à l'extérieur, donc pour l'instant, tout va bien pour Montpellier.
La Coupe d'Europe, Montpellier, t'y crois, toi, Ali, ou pas?
Bien sûr, puisqu'ils ont eu un gros trou pendant un certain temps. Là, ils peuvent bien terminer la saison. Et ça a commencé par une victoire à Strasbourg. C'est ça qui va l'échanger psychologiquement. Cette victoire va leur donner le goût et l'envie d'aller chercher cette Coupe d'Europe.
Ah, il y a quand même, ça va être quand même compliqué parce qu'il y a beaucoup d'équipes. Oui. Alors ils ont leur carte à jouer.
C'est pour ça.
Mais il y a Saint-Etienne, Reims, Marseille, Montpellier, qui sont un petit peu dans le même bateau au final.
Ce qui est cool, c'est que c'est des adversaires directs.
C'est ça. Montpellier. Mmh. Donc, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que je trouve intéressant, c'est comme on l'a très bien dit, c'est ce trio là avec Mollet.
Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas.
Mollet, Laborde, Delors, ça marche bien, c'est complémentaire, ça joue bien ensemble. Par rapport à ce que tu disais sur Caen notamment, ça c'est le complément type. C'est trois joueurs qui sont hyper complémentaires l'un avec l'autre, et donc ça marche bien.
Du côté de Strasbourg, il était comment Thierry Loret, un peu vénère, non?
Ah, il était énervé, il a pas trop. Alors, je lui ai posé la question de savoir si défensivement ça l'inquiétait d'avoir pris encore 3 buts, parce que si Strasbourg marque beaucoup depuis 5-6 matchs, ils encaissent aussi beaucoup de buts. Il était un petit peu vénère effectivement, parce que il a dit s'il y a 0-0, vous êtes pas content, vous les journalistes, vous voulez, alors mec, quand on prend des buts, vous êtes pas content non plus, on va vider les stades, dites qu'on est en roue libre. Donc il était un petit peu énervé, mais à côté de ça, il voulait surtout insister sur le fait que si on enlève les deux buts de Montpellier sur leurs deux seules occasions, c'est ce qu'a dit Thierry Loret, il était plutôt satisfait du match de ces hommes, même s'ils ont confondu enthousiasme et qualité de jeu. C'est ce qu'il a dit, il a reproché un peu à ses joueurs de se précipiter et de pas forcément respecter toutes les consignes, parce qu'il pensait qu'il y avait largement mieux à faire ce soir contre cette équipe de Montpellier, sans enlever la qualité de l'équipe Héraultaise.
Aurélien, merci beaucoup pour toutes ces infos.
À bientôt.
Bonne soirée, allez, bonne nuit à toi, Aurélien, à très vite.
Salut.
Aurélien Tiercin, donc, qui était avec nous. Et il est, chose promise, chose due. Voilà, il est en direct avec nous dans l'after. Si Thierry Loret est vénère ce soir, c'est aussi à cause de lui, Andy Delors, qui a planté un doublé face à Strasbourg ce soir. Bonsoir, Andy, merci d'être avec nous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et bravo, hein, pour ce doublé. Bravo pour cette victoire également, Andy. Hein.
C'est, Merci beaucoup, c'est gentil. C'est du bien, ça.
Bah, oui, alors ça fait du bien. Tu fais une grosse saison, Andy Delors. 13 buts, 12e et 13e but cette saison avec Montpellier. Qu'est-ce qui a changé cette saison?
Cette passe décisive aussi.
Voilà, et en plus les passes des. Qu'est-ce qui a changé cette saison, Andy?
Bah, je suis dans un club où je me sens bien, je prends du plaisir, où tout le groupe prend du plaisir et on se régale de jouer ensemble et c'est ce qui fait qu'on fait une belle saison et moi aussi, quoi.
Alors, Michel Derzakarian a déclaré en conf de presse, la Coupe d'Europe, on y pense, a-t-il dit. On rappelle que Montpellier était à 3 points de Marseille, à 3 points de la 4e place. Est-ce que vous en parlez entre vous, justement, de la possibilité de jouer une Coupe d'Europe avec Montpellier la saison prochaine, Andy Delors?
Bien sûr, c'est l'objectif principal. Après, on sait que ça va être très, très compliqué. Il reste 5 matchs maintenant et que ça va être compliqué de le faire. Mais en tout cas, on a ça dans la tête. On fait une belle saison. On a les points qu'il faut et on peut y croire. On est qu'à 3 points, donc tout est possible et on va tout faire pour.
Andy Delors est en direct avec nous dans l'after. Ali Benarbia, une question pour toi, Andy.
Bonsoir, Andy.
Bonsoir.
Ils font des bêtises.
c'est Ruben Aguilar et Gaëtan Laborde.
C'est toujours les mêmes de toute façon.
Donne-leur des bonbons de ma part.
C'est les Péruviens, ça. Hein.
J'ai que des pâtes au saumon là. Donc,
ça va.
Alors Andy, pour en revenir à ta saison où ça se passe très bien, ça me fait plaisir parce qu'un finisseur, on le sait très bien, il faut qu'il se sent en confiance. Mais je pense que, on parlait de complémentarité tout à l'heure. Et la complémentarité avec Laborde et Mollet, ça s'est ressenti dès le début de la saison et ça a été en continuité. Est-ce que c'est ce que tu ressens complètement?
Ah mais complètement. Avec Gaëtan, moi je vais prendre plus l'exemple à ce fin. Avec Gaëtan, par exemple, voilà, on est 2 attaquants de pointe, 2 buteurs et on prend du plaisir à jouer, que ce soit lui qui marque ou moi. On est les plus heureux. On a aussi, je sais pas qui a précisé tout à l'heure, mais les passes D, c'est important aussi.
T'en es à 7 là.
Mmh. Voilà, et lui il a 4 aussi, donc voilà, c'est être complémentaire et jouer pour l'un pour l'autre et voilà, on est des joueurs voilà qui lâchent rien et en plus on a cet état d'esprit qui est le bon et surtout à Montpellier donc voilà, c'est ce qui fait qu'on fait une belle saison cette année.
Et d'avoir un numéro 10, parce qu'on le dit souvent, on enlève ce rôle là souvent, on essaie de le gommer avec beaucoup de milieux terrain box to box, que ça me fait rigoler. D'avoir un joueur comme Mollet derrière qui est là tout le temps, qui tourne entre les lignes, c'est important pour l'attaquant. Et est-ce que c'est ce que tu ressens vraiment?
Bah oui, bien sûr, numéro 10, c'est vrai qu'il y a, comme vous dites, il y en a plus beaucoup, c'est beaucoup mais là des numéro 8 qui sont entre deux, qui se projettent beaucoup vers l'avant mais qui défendent aussi énormément. Et voilà, Flo, c'est un véritable numéro 10 et c'est sûr que dans le système où on joue, ça nous aide à garder les ballons, à distribuer. Bien sûr que c'est un très bon joueur et qui nous fait du bien.
Victoire de Montpellier 3-1 à Strasbourg ce soir avec un doublé d'Andy Delors qui est en direct avec nous dans l'after. Jonathan McCarty qui a des très beaux tatouages lui aussi. On peut le voir sur RMC Sport News. A une question pour toi, Andy.
Ouais, Andy, déjà, moi, je voulais te féliciter parce qu'il me semble que c'est ta meilleure saison pour l'instant sur le plan du statistique en Ligue 1. Avec 13 buts.
C'est ça.
Voilà. Je voulais savoir, toi, d'un point de vue personnel, sur le plan personnel, quels étaient tes objectifs? Tu vas atteindre la quinzaine? Est-ce que tu t'es fixé comme ça un petit palier à franchir?
Exactement. À début de saison, je voulais mettre 15 et je vais essayer de le réaliser. Je suis proche, donc je vais tout faire pour. Et voilà, après les passes D, c'est vrai que pour un attaquant, 7 c'est bien aussi. On va essayer d'en faire aussi. C'est important d'être décisif. Et voilà, je le suis. Le club est content. On joue la course à l'Europe et voilà, il y a tout qui se passe bien et le groupe est prêt, je pense, avec les joueurs d'expérience comme Vito, comme Soulet, comme Congré. On a tous les ingrédients pour justement y arriver et en tout cas, on va tout faire pour y arriver.
Et moi, je vais, toi, tout à fait honnête, t'as toujours été un des attaquants que, mes attaquants chouchous en Ligue 1.
Tu dis ça à tous les attaquants.
Non, c'est pas vrai. Et j'aimerais savoir, en fait, tu nous as donné quelques pistes déjà, mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui a changé parce que tu restais sur 2 saisons quand même, on peut le dire, vraiment pas très bonne, même mauvaise à Toulouse, cette expérience ratée au Mexique. Comment, dans quel état d'esprit t'as abordé la saison? Qu'est-ce que t'as changé des choses dans ta préparation? J'ai l'impression que t'es un peu plus en forme physiquement.
Non, sincèrement, rien du tout, mais okay. Après, je suis un joueur où j'ai besoin de bien me sentir au quotidien et à Toulouse, voilà, j'ai manqué de ça, je vais pas critiquer le club, mais ce club, c'est peut-être pas
fait pour toi.
Pour moi, et voilà,
au Mexique.
Au Mexique, après, je suis arrivé, il faut savoir que déjà, le transfert a été long. Je suis arrivé début août, je crois. Donc, j'ai pas eu de préparation. Après, je suis arrivé, j'ai quand même, le peu que j'ai joué, j'ai marqué.
Oui, t'as claqué, quand même.
J'ai fait des passes décisives, on a été champion. Et après, sincèrement, c'est pour ma famille, je voulais revenir en France, okay, pour mon fils. Et après, le Mexique, sincèrement, pour moi, après, c'est vrai que j'ai pas éclaté comme Gignac, mais c'est vrai que pour moi, c'est pas une expérience ratée, au contraire.
Et, ok. Et du coup, est-ce qu'on risque de te revoir quand même un jour dans un championnat étranger, ou est-ce que ces expériences sont un peu compliquées?
On verra. Le foot, vous savez très bien, vous connaissez très bien le foot, et vous savez qu'on peut pas se projeter comme ça, mais.
En tout cas, toi, t'es pas contre.
Non, sincèrement, moi, je suis bien à Montpellier, donc.
Alors, c'est la question que j'allais te poser aussi. Alors, on rappelle que t'es prêté avec option d'achat par Toulouse. Toi, t'as envie de rester à Montpellier, ou t'es pas fermé à autre chose éventuellement?
Non, moi, je veux rester à Montpellier.
Monsieur, Montpellier. Monsieur Samir, trouvé, Montpellier, c'est vrai.
J'ai trouvé, voilà.
T'as la famille pas loin. Familiale,
voilà, j'ai, ouais, t'es de 7, hein. Bien, voilà, et les supporters, voilà, sont derrière moi. J'ai certaines responsabilités ici, voilà, c'est chez moi, et voilà, les supporters.
T'as besoin de te sentir aimé, Andy, c'est là où tu t'exprimes le mieux. Exactement.
Peut-être que je m'avance un petit peu, mais après cette saison à Caen là, qui était une belle saison, je pense qu'il y a quelque chose qui est écrit. C'est pas trop tard pour le réaliser, mais je pense qu'à terme ça peut être l'avant-centre idéal pour l'Olympique de Marseille. Si tu continues à mettre ta quinzaine de buts annuels, c'est le
l'attaquant
qui correspondrait parfaitement à l'Olympique de Marseille, qui pourrait prendre la relève d'André Pierre Gignac. Mais après, ce n'est que mon avis.
Joker.
Bien joué.
Tu veux qu'on t'arrange le coup ou quoi, Andy?
Non, on va envoyer un message, on m'a dit que j'avais le droit à un joker, donc je l'utilise.
Alors attends, allez, tiens, ça tombe bien, toi peut-être futur attaquant de l'OM, prochain match, c'est face au Paris Saint-Germain, t'as un message à adresser aux Parisiens là?
En tout cas, il va découvrir la boussole, quoi.
Il est bon.
C'est bon, ça. Andy Delors, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci, bonne chance. On te regarde. Merci.
Bonne chance. À bientôt,
merci
Andy.
Beaucoup.
Ciao, Andy. À merci, bientôt. Bonne soirée. Salut. Ciao, Andy. Voilà Andy Delors qui a claqué un doublé. Allez, frais. Sympa.
Ouais, mais en plus, très franchement, quand il est bien entouré, c'est vraiment un bon attaquant.
Bah tu sais, tu parlais tout à l'heure, ce qui a changé quand tu joues avec Laborde et Mollet, déjà
c'est peut-être mieux. Ouais, mais il a des gestes de pur numéro 9. Ouais. C'est pas si courant que ça. Ouais.
Non, et puis on le dit souvent, Laborde il fait bien jouer,
il joue bien le chemin, hein.
Il cherche tout le temps, on le voit, et en plus d'avoir Mollet derrière, ça fait quand même beaucoup. Donc là, il a juste à s'occuper, surtout à être devant le but. Après, ce qu'il a fait ce soir,
je sais pas, je pense qu'il aura du mal à l'admettre, mais regardons les images, il a l'air d'être quand même un peu plus en forme que l'année dernière.
Oui, mais ça va avec
physiquement.
Mais ça va avec. Tu rends ce qu'on te donne.
Aussi, ouais. Ouais.
Axel, supporter de Montpellier, nous a appelé au 32-16. Bonsoir Axel.
Salut les gars.
Salut Axel.
Bon, salut, voilà. Double.
Bon, Andy Delors est content à Montpellier.
Ouais, ben nous on est content de l'avoir, hein, ma foi. C'est quelqu'un de coin, belle mentalité, il marque des buts. C'est ce qu'on
il correspond demande. Au club.
Ben, il correspond bien, il correspond très bien. Toujours, on le voit à l'échauffement, là, le match dernier contre Toulouse à domicile, toujours un petit geste pour les gamins qui l'appellent, un petit coucou. Fait vraiment quelqu'un de bien, je pense.
Du coup, t'es ravi que Jonathan l'envoie à l'OM, alors?
Pardon?
J'ai dit à l'avenir, non, pas tout de suite.
Bah, il a 27 ans,
il faut se prier, quand même. Il faut qu'il confirme,
Arrêtez d'envoyer tout le monde à l'OM. Ben,
Non, c'est Jonathan.
Ce que j'ai dit, c'était que à la sortie de sa saison de Caen, il y avait d'ailleurs des rumeurs persistantes autour de lui. C'est que c'était typiquement de par sa personnalité, de par son caractère, par son style de jeu, un des avant-centres qui a le profil type OM. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit, rien de plus.
Il y a des rumeurs, mais il y avait des rumeurs qu'il envoyait aussi à Montpellier parce qu'on sait qu'il était natif du coin. Donc après, Vous savez, les rumeurs dans le foot, il y en a beaucoup. Hein.
C'est pas faux.
Dersac l'a dit en conf de presse. Alors c'est ça qui est assez intéressant. Avec cette fin de saison de Montpellier, ils ont un calendrier qui est pas forcément facile, mais ils sont complètement décomplexés par rapport à cette course à l'Europe. Ça aussi, c'est un peu rafraîchissant finalement. C'est-à-dire, ils l'admettent, ouais. Hein, on y pense, voilà, l'Europe, pourquoi pas.
Ouais, mais pourquoi pas. Mais après, quand on regarde le calendrier, voilà, pourquoi pas. On reçoit Paris. Paris en ce moment, ça casse pas des briques. Hein.
C'est un peu le paillasson de la Ligue, hein, Paris en ce moment.
Ouais, mais
toi,
voilà.
Tu vas te faire des potes encore.
Mais c'est vrai. Paris, ils n'ont jamais trop réussi parce que c'est quand même, voilà, c'est compliqué. On a quand même la dernière journée de championnat où on va jouer à Marseille. Ça peut être, voilà, une petite finale pour jouer l'Europe. Entre temps, on a une paire de matchs à domicile jouables. On a Amiens, je crois, on a Nantes. Enfin, voilà, je pense qu'on a. Après, si on n'est pas européen, ça sera, c'est pas grave en soi, hein, parce qu'on n'était pas, voilà.
Qu'est-ce que tu te dis, Axel, ce gros trou que vous avez eu, si vous ne l'avez pas, vous auriez été bien.
Eh ouais, mais avec des scies, on peut couper des arbres. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est dans une saison.
C'est le modèle d'une saison, Ali. Hein.
Non, surtout que Montpellier avait cette capacité quand même à être costaud derrière et prendre un contre.
Ouais,
et
ouais,
pendant un certain temps, ils ont un petit peu oublié.
Mais
Axel,
moi, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que cette saison, t'es peut-être un petit peu moins solide que l'année dernière, mais que tu te régales un petit peu plus quand tu
vois ton équipe jouer, non?
Ah ouais, par contre, on se régale, voilà, à part les, comme vous dites, là, à part les mois de janvier, février, où c'était un peu galère. Après, c'est vrai qu'on se régale quand même dans le jeu et tout, c'est plaisant, je trouve, à jouer sur les latéraux, ça centre beaucoup, chose qu'on avait pas trop Montpellier avant, enfin, c'est vraiment plaisant, on prend ouais, plaisir à aller au stade.
T'as une triplette offensive qui est très intéressante, ce qu'avait pas eu Montpellier depuis un bon moment, et automatiquement, Der Zakaria, il se lâche un peu plus offensivement.
C'est vrai que cette triplette devant est pas mal, et voilà, et après, comme on le répète, quand on a un mec comme Delors, on le sent sur le terrain, bon, il marque des buts, certes, mais quand vous le voyez, le travail défensif qu'il fait devant, il est impressionnant, il s'arrête jamais, il court.
Et non, mais même son travail de sap pour user la charnière adverse, c'est, il est toujours en mouvement, il fait toujours des appels, il essaie toujours de se positionner entre les deux centraux. Je trouve vraiment, ça doit être chiant de défendre sur lui.
Ah ouais, ça doit être affreux parce que c'est vraiment il fait que bouger, il remue de partout.
Il met des coups aussi un petit peu, il a un peu de vis.
C'est comme un taureau, il a fait rien.
C'est ça.
Vous l'avez vu physiquement, il est costaud le type, attention.
Mmh. Ah, c'est sûr, ouais.
Non, il est affûté surtout.
Ah ouais. Non, il est très bien. C'est
Et puis il a arrêté de mettre du mascara, donc c'est bien aussi.
T'aurais dû lui dire quand il était là.
J'ai pas pensé.
Non mais toi tu fais le kéké.
Non mais j'ai pas pensé.
Oui c'est ça.
J'ai pas pensé. J'ai
dit putain merde c'est cool. Il a traversé la rue. Il est parti.
Non j'ai pas pensé. Sinon je lui ai demandé pourquoi il avait arrêté.
Il est courageux lui. Il est bon lui. Tiens Axel, ne raccroche pas. On va t'offrir deux places de cinéma pour aller voir Just Gigolo, la comédie d'Olivier Barou avec Kad Merad.
Eh ben c'est gentil. Merci beaucoup les gars. Eh ben passez une bonne
soirée.
Merci.
Toi aussi.
Bah non, t'es casé ou pas, Axel?
Pardon?
T'es casé ou pas?
Oui.
Bah voilà.
Oui, deux fois.
Alors, ça veut dire qu'il doit amener sa copine voir ce film-là.
Ou son copain.
Oui, je l'amènerai.
T'es sûr que c'est une bonne
idée?
Qui est con celui-là? Salut Axel.
Bonne soirée Axel.
À bientôt.
Ciao les gars.
Ciao. On accueille Didier, autre supporter de Montpellier. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Salut Didier.
Salut. Supporter de Montpellier.
Oui.
Alors, très heureux de la victoire, hein, elle est très importante pour l'Europe. Surtout.
Alors t'y crois alors, ça veut dire
à une énorme équipe canoise et un Brice Samba. Donc je tiens à saluer votre ancien auditeur Robert alias Cooney Bale, qui était supporter canois. Donc je soutiens la même équipe et c'est bien, ça nous fait du bien pour l'Europe.
Hein. T'as pas ta radio d'allumer derrière Didier là?
Ah oui, pardon, je veux la couper.
Ah, merci, la couper, Didier, la dite,
merci,
non?
Sinon ça fait de l'écho. Ouais. Merci. Vas-y Didier.
Pardon, excusez-moi.
Alors Didier, donc, Didier, voilà. est-ce que tu crois à l'Europe toi aussi là pour Montpellier?
Ah ben j'y crois de plus en plus, hein. Vraiment, j'y crois de plus en plus grâce à cette belle victoire de Montpellier et à un super Andy Delors. Et ce qui nous a fait du bien aussi, c'est la victoire, faut pas se cacher, de Caen à Nice. Bravo au Stade Malherbe et aux supporters que vous avez eu tout à l'heure, Cooney Bale.
C'est supporter canet, pas canois.
C'est une alliance qu'on a l'impression. On a l'impression qu'il y a une alliance. Et ça fait du bien pour nous, Montpellier. On arrive à grappiller des petits points par-ci, par-là. Et on a vraiment une belle attaque et une équipe qui est vraiment sous-estimée, je pense.
Qu'est-ce qui te plaît cette année, Didier, à Montpellier? Beaucoup plus que la saison dernière. C'est quoi qui t'a surtout plu cette année?
Ah ben, moi, j'ai l'impression d'avoir une équipe qui a la rage, la rage de vaincre et qui voilà, il y a une cohésion. Il y a une belle équipe quoi, qui est menée de l'avant par un beau trio d'attaque qu'on a.
Mmh. Non, mais et la différence par rapport à l'année dernière, c'est ça, c'est ce trio d'attaque. Parce que des bons défenseurs, t'en as.
Et qui avait la rage aussi.
T'en avais. Paul Lannes et compagnie, c'est quand même des bons joueurs. Mais là, t'as ces trois joueurs là qui font clairement la différence cette saison. C'est ça là, la différence principale avec l'année dernière.
Oui.
Et c'est vrai que c'est grâce à ça, ça nous a amené dans une nouvelle dimension.
Tu te sens plus serein quand tu as des joueurs.
Vraiment à l'Europe, hein.
Ouais, tu te sens plus serein quand tu as tu as un trio offensif qui peut à n'importe quel moment à domicile à l'extérieur.
En plus de plaisir, en plus.
Marquer des buts, ça rassure le milieu terrain et la défense. Ce qui n'était pas le cas avant, il fallait que la défense fasse pratiquement tout.
Merci à Didier, supporter de Montpellier, d'avoir été avec nous. Victoire donc de Montpellier 3 à Strasbourg. Tiens, un petit mot également sur Nîmes-Bordeaux. Nîmes qui s'impose 2-1 face à Bordeaux. Bordeaux, 18e équipe à l'extérieur au coup d'envoi de cette journée. Déclaration de Paulo Souza à la fin du match. On a eu la possession, on a eu des opportunités, mais on doit être plus agressif pour gagner ce match. C'est un match que l'on doit gagner avec le coup franc de Préville, puis la frappe d'Otavio sur le montant. C'est vrai que il y a ce fameux coup franc là de Préville qui est complètement métamorphosé depuis que Paulo Souza est arrivé.
C'était pas mal comme match, parce que de manière, ces deux équipes.
Nîmes joue bien,
chose à jouer, donc ça a été Nîmes. Ouvert.
Moi, je les trouve pas dégueu en Bordeaux.
Et Bordeaux, c'est ce que j'allais dire. Alors, j'avais beaucoup vu la FIO de Souza. Je vais pas raconter ma vie, mais j'aime bien aller à Florence quand j'ai un peu de temps libre. C'est la ville, ma destination numéro un. Donc, j'avais pu les voir plusieurs fois jouer au stade, et on retrouve un petit peu cette patte. L'identité qu'il avait à la FIO, c'était que c'est une équipe qui était capable d'aller très très rapidement dans les phases de transition offensive, et surtout avec une exploitation maximale des couloirs. Et là, tu vois comment un petit peu l'animation de Bordeaux, ça joue bien sur les côtés, ça gère toujours la profondeur latéralement, enfin la profondeur sur les côtés, il y a beaucoup de jeux et il y a des joueurs, tu l'as très bien dit Nico, un joueur comme Depréville, c'est plus le même, et on sait que c'est un bon joueur de foot, et non, quand t'as un entraîneur qui aime bien les bons joueurs de foot, ça peut que aller dans le bon sens pour lui.
Ouais, cette équipe de Bordeaux, c'est par intermittence, ce n'est jamais pendant 90 minutes, elle est capable de pouvoir bousculer, et si elle sent qu'elle ne marque pas, elle peut s'effondrer. Voilà, elle avait quand même une équipe de Nîmes qui, même si c'est un promu, joue quand même très bien à domicile.
Après,
mais concernant Bordeaux, faudra.
Comme l'a dit Jonathan, il joue plus rien, il joue plus grand chose. Et par contre, j'ai hâte de voir la saison prochaine avec cet entraîneur-là. Ça pourrait donner.
Le mercato va être important.
Va être très important.
Ils ont une enveloppe. Mais c'est un gars qui fait bien jouer ses équipes. Hein, la Fiorentina, bon, ils ont eu des bons résultats, mais surtout dans le contenu, c'était bien avec lui.
Il
avait une équipe. Attends, à la Fio, il avait une équipe qui était vraiment. Avec Chiesa qui commençait à bosser. Sortir, mais c'était pas une. Pas des poudres de guerre dedans.
Il fait bien bosser, mais si tu n'as pas les ingrédients, tu n'as pas les joueurs. Je crois qu'il a dit vais-je tout changer. Alors on sait pas, on va attendre de voir.
Côté Nîmois, alors je vais dire, s'il y a bien un mec qui a une classe phénoménale, c'est Paul Sosa.
Ouais,
Paul
Sosa. Par contre, lui il a la classe.
Attends, même quand il parle français, alors il a même pas d'accent gauche.
Même pas un chien.
Il a un accent, mais il a un accent italien le gars, même quand il parle portugais.
La classe.
Et lui il a une classe ultime.
Outre Bordeaux, Nîmes, ça encore, on se régale à chaque fois qu'on les voit.
C'est vrai que c'est pas mal. Hein,
le penalty, Savanier qui se va le but,
il marque sur penalty. Il nous a fait une costille là.
Penalty de la petite Panenka là, c'est lui qui obtient le penalty parce qu'il tire encore.
Il
le
vole. Coup, cette année, Savanier, il vole.
Non mais c'est pas que cette année, Ali.
Non. Savanier. Là, on parle de la Ligue 1.
Ouais, mais Savanier, c'est pas la même depuis 3 ans, il est très très fort.
Mais là,
il aurait pu rejoindre la Ligue 1 auparavant, mais on sait que pour des raisons familiales, il a pas envie de quitter Nîmes.
Oui, mais c'est fini Savanier. Moi, je pense que cette saison, c'est fini de quitter là. Il se dit c'est maintenant ou jamais.
Allez, Ali, à part Paris, dans quel club de Ligue 1 il a pas
sa place? Tu rigoles ou quoi? Il est à Nîmes.
Non mais je te dis à part Paris,
clubs,
dans quel club de Ligue 1 il a pas sa place?
Tous les clubs.
Voilà.
Ah non, qu'il a pas sa place. Okay. J'en sais rien du tout, mais partir.
À Lyon.
Il peut aller à Lyon, il peut aller à Monaco, il peut aller à Marseille, il peut aller à Bordeaux.
Non, c'est pas ça. C'est ce que je te dis, Ali.
Même si c'est un club de Bordeaux.
C'est ce que je te dis, Ali. Bon,
d'accord. Non.
C'est ce que je te dis.
Les amis de départ.
Je suis d'accord.
Non, c'est pas ça. Les amis de départ. Maintenant, à savoir si j'aurai titulaire dans ces équipes.
Dans tous les clubs à part Paris, je suis titulaire.
N'oublie pas, Jonathan. Il est bien à Nîmes, il est chez lui. Sur le terrain, il fait ce qu'il veut. Dans un autre club avec une concurrence, tu sais, les joueurs, c'est différent.
En termes de niveau,
c'est beaucoup plus dur.
Dans n'importe quel club.
Récapitulatif de ce samedi.
Je vais juste faire un petit bisou parce qu'il nous écoute au papa d'Hervé Liboy.
D'accord.
Voilà, j'ai dit que je vous dirais bonjour ce soir. Et Hervé Liboy qui a une belle histoire.
Bon joueur.
Lui, très belle histoire.
Un bon joueur. Moi aussi, je vais faire un coucou au groupe formation Limagne qui participe au tournoi Brive-Charensac demain. Voilà, courage à vous les mecs. Voilà, tournoi des gamins.
Voilà, tiens.
Je suis prêt pour tirer Roland l'espace de quelques instants.
Ouais, c'était sympa.
Pas gracieuse dans quelques instants. Dans aussi. 33e journée de Ligue 1 ce samedi. Marseille qui s'est imposé 3-1 face à Guingamp. Nîmes qui a battu Bordeaux de Buzyn. Montpellier qui s'est imposé 3-1 à Strasbourg. Et puis la victoire de Caen 1-0 face à Nice. Dans quelques instants, il est beau, il est classe lui aussi parce qu'il est italien. Simone Rovera.
Oh là, mais il est en surpoids. Il est en surpoids.
Arrête avec ça. On a dit pas le physique. La Juve est championne d'Italie. Énorme surprise, grosse sensation en Italie. On évoque ça dans quelques instants avec Simone Rovera, bien entendu. On sera en Angleterre avec Julien Laurence et en Allemagne avec
le roi de la nuit.
RMC, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Toujours aussi bien accompagné, Ali Benarbia, Jonathan Macardi, Anthony Quintela. Et il nous a rejoint Perché il campione italiano ha conosciuto grande sorpresa.
Che cazzo?
Sì, Simone Rovera, come va Simone?
Toujours mieux accompagné, parce que c'est maintenant, il y a 6 mois.
C'est vrai,
c'est
vrai.
Toujours bien, Simone. Encore mieux accompagné. Ciao, buonasera, bonsoir.
Ciao Simone.
La Juve qui s'est imposée 2-1 face à la Fiorentina aujourd'hui. Et la Juve qui est championne d'Italie.
Ah oui.
Ouais.
Elle a gagné.
Octogone.
Elle n'a pas été éliminée.
8 fois d'affilée. 8
yes.
Fois. Attends, d'ailleurs, ça fait combien de titres en tout pour la Juve? Parce qu'avec les championnats truqués chez vous et tout ça. Là.
Moi, j'ai
championnat en truqué. Attends.
Moi, j'ai dit 35.
Oui, c'est 35.
Après, il y en a 37 sur chaque mur du Juventus.
Bah, ils ont posé avec une photo 37. Là,
voilà. Donc, tu prends la photo qu'ils mettent, tu fais moins 2 et c'est le numéro de titre officiel.
Là, c'est compliqué les matchs chez vous. Hein. Tiens, bah attends, la Juve est championne. Première équipe dans les grands championnats européens à remporter 8 titres d'affilée, ça n'est jamais arrivé. C'est pas arrivé en Italie. Enfin, c'est pas arrivé en Italie. C'est, enfin, avant.
Bayern.
C'est pas arrivé en Allemagne.
Ça a failli arriver en France.
Lyon, ils ont fait 7.
Ils ont fait 7.
Lyon, c'est pour ça.
C'est pas arrivé en Allemagne. C'est pas arrivé en Espagne non plus. C'est même pas arrivé au Portugal, les mecs. Voilà, c'est vous dire.
C'est arrivé en Écosse, si t'intéresses.
Oui, c'est arrivé en Écosse.
Deux fois. Les deux. Les deux clubs ont fait 9.
Les Rangers et les Celtics.
Voilà.
Simonet, pour marquer le coup, voilà, c'est une demande qu'on a eue sur le hashtag RMC Live. Il faut que tu nous chantes une petite chanson.
Une petite chanson?
Oui, ce que tu veux, je sais pas.
Un italien?
Bah oui, tant qu'à faire, oui.
Mais classique.
Ce que tu veux, au fait.
De Turin.
Lasciatemi
cantare. Non, pas ça, ça on connaît. C'est nul, ça. Non, non. Jérôme Thomas ne valide pas. Non.
Solita notte da lupi nel Bronx, nel locale stan passando un blues degli Stones, los che individui al bancone del bar, pieni di whisky e margaritas.
C'est du
rock. Ucciso l'Homme Ragno.
Bravo.
Ah,
c'est du rock italien.
Ils ont tué l'Homme Ragno.
Ah ouais, d'accord. Allez, c'est ça la chanson.
Le Maroni.
Les groupes s'appellent Otto Otto.
Le Maroni.
Oui, Otto Otto Tre.
Ils ont tué le Maroni.
Il a rien fait là.
Ah là là.
C'est le même prix.
Bon, tu veux bien. La freine ou pas? Non.
Si, bah si, vas-y du coup.
Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità, hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche perché, avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè.
Ma si, c'est vachement connu ça.
C'était une hit historique dans les années 90.
T'as pas du Ramazzotti là, en stock là? Putain, prends ça Nagui, vas-y. Non, t'as pas?
Du Ramazzotti, mais c'est pas mon chanteur préféré. Après, c'est difficile de faire.
T'aimes pas Ramazzotti?
Non, il est pas romantique.
C'est vrai?
Non, romantique.
Non, c'est juste qu'il aime pas la musique nulle, quoi. C'est plutôt comme ça qu'on peut présenter, quoi.
Eros, c'est une icône, c'est une emblème, mais.
Zucchero?
C'est déjà un peu mieux.
Mais bah, c'est plus rock.
Mais pas deux, c'est le titre de chanson.
Mais j'ai déjà une chanson.
Mais vas-y, fais-nous un truc
non,
sympa.
Mais non, mais c'est très sympa.
Les chants de la Juve, voilà, c'est ça.
Tu veux nous chanter du Rocco?
Juve, storia di un grande amore.
Voilà. Ça te fait mal, hein.
Voilà.
Alors, allons-y. Alors, ça y est, la Juve qui est championne. On va parler un peu de foot, un peu, quand même.
Oh,
ouais. La Juve qui, ça y est, est championne. Alors, autre petite stat, et c'est vrai qu'il la mettait dans ses trois points tout à l'heure, Anthony aussi. Cristiano Ronaldo, qui devient le premier joueur de l'histoire à remporter la Première Ligue, la Liga et la Serie A.
Ouais. Il a choisi le bon club pour gagner un autre championnat. C'était un championnat pour moi déjà plié à la fin de la saison dernière, encore plus avec l'arrivée de Cristiano. Faut dire deux choses. Sur la saison, il n'y a pas débat. La Juve est supérieure à niveau d'effectif, à niveau de remplaçants, à niveau des jeux, pas vraiment. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont offert mieux pendant la saison. Il y a un parti où c'était beaucoup bien. C'était très bien Napoli au début de la saison. Aujourd'hui, la seule équipe qui court vite, qui joue vite, qui pense vite, c'est l'Atalanta. Et ça montre un peu de soucis à niveau de nos résultats en Europe. Après, sur les matchs d'aujourd'hui, parce qu'il faut aussi les parler, la Juve gagne, mais c'est vraiment une équipe tellement forte que tu sais qu'un moment ou l'autre pouvait aller marquer, souffre énormément en première mi-temps, qui est à prendre une poteau, une barre transversale. T'as l'impression que la Juve vraiment joue toujours sur ça. Un jour ou l'autre, un moment ou l'autre du match, ils vont gagner, ils vont faire un but, une accélération de Cristiano, un éclair de Pjanic, une première partie de saison, la force de Mandzukic.
il n'y a pas énormément des choses à raconter sur un match de la Juve, c'est toujours plutôt la même chose.
Mais non, mais alors parlons plutôt de la saison, parce que c'est, ça tombe quand même quelques jours après l'élimination face à l'Ajax en Ligue des Champions. Ça fait 8 titres d'affilée quand même pour la Juve. Est-ce que, je sais pas, il y a des débats, il y a une inquiétude par rapport à ça, tu le dis, on se pose des questions par rapport à ce que fait la Juve en championnat et ce qu'ils font aussi en Coupe d'Europe finalement ou pas?
Bah alors ça oui et non, c'est-à-dire c'est un débat qui à mon avis va se terminer dans quelques jours, c'est-à-dire ce qu'a fait la Juve cette année en Ligue des Champions, c'était pas extraordinaire. C'est une équipe qui reste quand même sur une dynamique très importante à niveau de résultats sur les 5 dernières saisons. C'est vrai qu'ils avaient fait quelque chose en plus pour aller plus loin cette année. Au final, c'est la seule Italienne qui est toujours présente en Ligue des Champions, au moins dans les 8 premières équipes d'Europe. Les débats, ça peut être, est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce que c'est la faute des Allegri? Globalement, les niveaux de cette Juve, c'est hors débat. C'est une équipe supérieure à l'Italie qui est très très bonne pour être dans les listes d'Europe. Après, pour y arriver, il faut quelque chose en plus. Oui, à niveau des joueurs,
ça devait être Cristiano Ronaldo cette année. Ça avait été présenté et comme ça, du moins.
Ça avait été présenté Simone, comme ça. Après, a manqué beaucoup d'autres
par
choses.
Par rapport au titre, comment c'est perçu en Italie? Est-ce que c'est comme on l'a eu ça en France avec Lyon? Au bout d'un moment, il y avait une certaine lassitude.
J'ai l'impression qu'il y a une certaine lassitude. Ces soirs, pour te dire, dans la place principale de Turin, il n'y avait pas beaucoup de monde à fêter. C'était vraiment quelques centaines de personnes qui sont restées, même les soirs. Les fêtes des premiers titres, l'air compté, c'était incroyable.
Et puis l'équipe, elle était peut-être un peu moins forte, mais elle est plus de charme, je trouvais, l'équipe, les sous Conte. Ça faisait peut-être un petit peu moins,
il y avait des joueurs,
plus de personnalité.
Il y avait des joueurs qui peut-être avaient plus de personnalité. Déjà, l'équipe a tellement changé de visage parce qu'on parle de Conte, mais il y a la Juve de Conte, la première Juve d'Allegri, celle d'aujourd'hui.
Beaucoup plus d'Italiens. Je te parle de celle avec Tevez, Vidal, Pogba,
tu sais, à l'époque, Andrea Pirlo. Andrea Pirlo, mercredi soir, disait une chose, disait ma Juve était beaucoup plus, et n'a pas dit beaucoup, mais l'a fait comprendre, était bien plus fort au milieu de terrain.
Ah ouais.
Pirlo, Vidal, Pogba et Marquise, premier remplaçant, mais devant, on était plus faible. Donc,
Il y avait Tevez, il y avait quand même des bons joueurs.
T'avais Tevez et
là, t'as plus
et
de bons joueurs.
Aujourd'hui, t'as quand même Dybala, Mandzukic, Cristiano, Douglas Costa, Bernardeschi,
qui est en train de se révéler,
Damoïs Kane qui arrive. Donc, c'était une équipe, la première Juve qui a gagné un titre, c'était avec Matrić Vucinic. C'est-à-dire, on voit l'upgrade qui a fait la Juve, et cet 8e titre, pour moi, doit être fêté dans la continuité, doit être considéré dans la continuité d'un travail. Deux parties de la Juve, avec les Giaccherini, avec le Decellier. Decellier était presque un titulaire indiscutable dans la première équipe de Conte. Ah, regarde où est aujourd'hui la Juve avec Alessandro Cancelo. C'est vrai que les supporters de la Juve l'ont fêté, mais j'ai pas vu cet enthousiasme qu'il y a eu.
Mais peut-être qu'ils ont été refroidis aussi par la Ligue des Champions.
Ah oui, sûr. Il y a eu cette élimination. Et donc, les joueurs, par contre, moi, j'ai trouvé qu'un joueur, quand finit un championnat, fait son titre, il a fait son travail, il a souffert une année, même s'il savait que c'était plié déjà il y a 2-3 mois.
Du coup, là, Simone, on va parler de ce qui va se passer la saison prochaine. Comment, c'est quoi les premières rumeurs? Donc, Allegri va rester, c'est ça?
Attends, il y a deux rumeurs, deux grosses rumeurs, notamment depuis cette élimination en Ligue des Champions. C'est l'avenir d'Allegri et celui de Cristiano Ronaldo aussi. Alors, qui a répondu d'ailleurs, je crois, ce soir?
Cristiano, il a dit qu'il reste au 1000%. Donc, ça, c'est vrai. Les seules rumeurs qu'il y a eu, c'est sur le fait que les projets Cristiano s'arrêteraient à la fin de la prochaine saison, en connaissant la Juve et ses besoins économique, financière, même des bourses. Imaginez qu'un club qui fait un investissement de 100 millions sur Cristiano, après, va à la fin de son contrat et le laisse partir libre. Ça me semble étrange. C'est un joueur que si tu veux encore monétiser l'opération Cristiano, tu peux faire encore un année sûrement.
Là, c'est déjà rentable. Là, j'ai vu ça passer.
Il disait que c'était déjà rentabilisé avec les...
C'est pas vraiment rentabilisé. C'est-à-dire, pour être couverte l'année entière, la Juve aurait dû arriver en finale de Ligue des Champions.
D'accord.
Entre les gains de la Ligue des Champions, les prix UEFA, les droits télé et les recettes du stade. Cette Juve, pour la première année, va avoir un bilan négatif de quelques dizaines de millions, pas énormément. Ça devrait être balancé, ça devrait être équilibré avec des plus-values faites par certains joueurs. Les départs de Dybala, un éventuel départ d'Alexandro. On parle beaucoup même s'il a prolongé il y a une semaine d'une départ de Mandzukic, parce qu'apparemment, avant l'Ajax, il y a eu un gros accrochage avec Allegri. C'est sorti aujourd'hui dans la presse italienne. Donc, il y a beaucoup de points d'interrogation. Qui va rester? Qui va partir?
Et qui va partir aussi.
Alexandro va partir, probablement. Dybala va partir, probablement. Barzagli se retire à la fin de la saison. C'est Juve qui doit changer de
pot. Qui va arriver? Il y a des noms déjà, à part Ramsey qui a déjà signé, mais...
Il y a plein de noms.
Mais
donc,
ça veut dire qu'Allegri va rester, alors?
Allegri devrait rester. Allegri veut rester et Agnelli considère que c'est l'homme.
Ils ont refusé sa démission.
Il a encore un an de contrat, donc.
C'était quand? C'était le mois dernier qu'il avait démissionné et que ça a été refusé.
C'était en rumeur. Personne l'a jamais confirmé. Okay. Moi, j'ai pas eu de confirmation sur ça. Qu'il y a eu des échanges, des débats sur. Allegri n'a jamais aimé toutes les polémiques qu'il y a autour de lui. Cette année, Allegri, c'est pas un énorme info, mais ça raconte un personnage. Cette année, en février, après les matchs allés face à l'Atlético, Allegri a désactivé tous ses profils réseaux sociaux.
Ah oui?
Parce qu'il en avait marre. Il avait marre chaque fois qu'il regardait un truc, il y avait des polémiques sur lui.
Fred Hermel l'a fait aussi.
Tu vois, c'est...
Non, mais c'est bon, en plus.
Tu parlais de
cette... Fred Hermel va peut-être aller à la Juve. Hein.
Oui, qui sait, rejoindre Cristiano.
Tu parlais de cette Juventus qui fêtait, que tout le monde le fêtait, cette équipe de la Juventus, parce que je pense, moi, qu'à un certain temps, il y avait beaucoup plus de joueurs italiens.
Bah là, c'est une nouvelle génération. Ali, tu t'en fous de ça.
Ali, non.
Les Parisiens, il n'y a jamais eu autant d'étrangers, il n'y a jamais eu autant de mecs qui fêtent les titres du PSG que
ces
dernières années.
Non, mais je parlais de la Juve.
Non, mais c'est pareil.
Mais attends, la Juve, pas en celle de Pirlo, il y avait...
C'est une marque, la Juve, aujourd'hui.
Il y avait Vidal, Pogba, Tevez.
En plus, ça a toujours été un club qui a été aimé par ceux qui sont en dehors de Turin. C'est ça?
Non, mais des joueurs qui étaient un ou deux, trois, quatre stars, non, il y a toujours eu.
Il y a certains joueurs, quand même, qui sont italiens, qui sont là,
Mais derrière, il y a les défenseurs qui sont
gagnés. T'as toujours Bonucci, Chiellini, t'as Spinazzola, t'as Kent, t'as Bernardeschi, Perrine, c'est pas les gardiens titulaires, mais c'est pour gardien qui fait partie de la sélection italienne. Donc, t'as au moins 7-8 joueurs italiens de bon niveau qui sont dans les, qui sont aussi en sélection, un jour oui, un jour non, mais il y a un groupe italien très fort. Après, la question qu'on se pose aujourd'hui est, qu'est-ce que va faire Allegri pour augmenter les niveaux? On parle beaucoup de l'arrivée d'un avant-centre pour épauler Cristiano, ou quand même d'un joueur qui marque des buts.
On parle de qui notamment?
On parle beaucoup d'Icardi, en cas de départ de l'Inter. Ça, c'est.
J'imagine le choc. J'irai à la Juve.
J'imagine le choc.
C'est une des normes qu'on fait plus. Et l'autre joueur sur lequel la Juve a mis ses yeux et voudrait l'acheter, c'est Federico Chiesa. Qui aujourd'hui a fait match.
Il parle beaucoup de João Félix et de Ruben Dias aussi, là, les deux du Benfica, le défenseur et l'attaquant.
Un défenseur central, c'est sûr. Il voudrait prendre De Ligt, mais ça coûte très cher. Ruben Dias, c'est une des noms. João Félix, il y a plein de noms qui circulent. On parle de Pogba, on parle de Isco, on parle à la Juve. Il y a plein de monde qui propose des joueurs. Il y a plein de monde qui cherchait à faire des opérations avec la Juve parce que c'est le peuple plus riche en Italie. Donc, on verra. Moi, je pense qu'il n'y aura pas une révolution énorme, même si cette équipe va bientôt avoir besoin de révolution, parce que tu peux pas comprendre, tu dois commencer à penser que Chiellini n'est pas éternel, que Cristiano Ronaldo n'est pas éternel. Moi, je trouve que même la deuxième partie de Matuidi, c'est pas au niveau de la première. Donc, Mandzukic, je l'ai dit, devrait partir, mais il faut le remplacer. Donc, c'est Juve, pour moi, qui est plus en fin de course qu'au sommet. Sur certains joueurs importants. Donc, je pense que c'est une année de révolution, pas totale, mais une grosse partie de l'effectif va changer.
Tiens, juste avant de se faire une petite pause et d'accueillir David Lortolari, il y a une remarque sur le hashtag RMC Live d'ADN Football qui nous dit, je suis désolé, mais même sans Cristiano Ronaldo, la Juve aurait été championne d'Italie.
Bah, c'est vrai que
on est tellement habitués finalement à aller voir
championne. Bien sûr. Ouais. Non, mais moi je suis convaincu. La Juve a changé un peu de priorité. Il y a 2-3 ans, quand arrive Higuain, c'était pour rendre plus simple le travail en championnat et laisser plus de
Dybala,
et faire grandir Dybala qui devait être la star de Ligue des Champions. Aujourd'hui, on s'est dit bon, on prend Cristiano pour la Ligue des Champions en sachant qu'en championnat, on aurait déjà fait notre travail. Après, Cristiano joue en championnat, marque en championnat. C'est pas les buts de Cristiano qui font gagner le championnat.
Il a marqué combien? 18,
19,
19.
19, aujourd'hui il provoque les contre son calme de Pezzella qui fait les 2-1, donc c'est toujours un joueur supérieur. C'est pas les joueurs qui a fait gagner la Ligue des Champions tout seul, mais s'il y avait un joueur prêt et décisif en deuxième partie de saison en Ligue des Champions,
Il n'y a que lui à la Juve.
D'ailleurs, c'est un peu rigolo, parce que bon, il a fait pas mal tourner Allegri, mais les meilleurs buteurs de la Serie A, c'est Quagliarella avec la Samp, c'est Piatek, alors avec le Genoa et Milan, puisqu'il a été transféré ensuite, et Zapata avec l'Atalanta. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun mec de la Juve qui est devant.
T'as Cristiano derrière, t'as Cristiano juste derrière. Mandzukic, il avait marqué 8 buts dans la première partie de saison, il est à 0 en 2019. Ouais. Donc il y a même ça, de quand on regarde la saison de la Juve, je te dis, il y a certains joueurs qui étaient vraiment très très bien en première partie. Deuxième partie, on l'a jamais vu. Douglas Costa toujours blessé. Quadrado se fait opérer en janvier.
Le problème, c'est Dybala.
Dybala absent toute la saison. Mandzukic, Matuidi en baisse des formes. Moi, je pense aussi qu'il y a une chose qui a fait très mal à tout le club italien, parce que tous les clubs italiens ont eu une baisse des formes en deuxième partie. C'était cette année,
Le Boxing Day à l'italien.
Voilà. D'avoir fait la trêve en janvier 10 jours, d'avoir joué toutes les vacances. Je pense que c'est pas les joueurs étaient fatigués. Non, je pense que la préparation n'avait pas été fait bien pour cette deuxième partie de saison. Parce que si on s'arrête en décembre, en 10 décembre, t'as encore l'Inter, deuxième dans son groupe de Ligue des Champions, devant Tottenham. Tottenham joue la demi-finale. Naples devant Liverpool, le dernier match passe derrière. Donc, jusqu'à décembre, les clubs italiennes allaient bien, même en Europa. Après, une deuxième partie de saison, une catastrophe, cauchemar. Bon, il y a un club qui va fêter, c'est la Juve, et après, il y a la Coupe d'Italie.
On va revenir dans quelques instants avec David Lortolari. Avant de partir, Daniel Torres t'a préparé ça, il faut que tu devines, blind test, qui chante ça?
Piove, senti come piove, madonna come piove, senti come viene.
Il ne maîtrise pas que le football, il maîtrise aussi la musique italienne. Dans quelques instants, David Lortolari sera avec nous. Le Bayern s'est imposé aujourd'hui face au Werder. Dortmund jouera demain. C'est plié en Italie, ce n'est pas encore plié en Allemagne. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Ali Benarbia, Jonathan Macardi, Anthony Quintela, Simone Rovera sont avec nous. Et on va accueillir maintenant David Lortolari puisqu'on va parler de Bundesliga. Salut mon David.
Allô, friend, salut Nico, salut,
salut
à tous.
Salut.
Quelques résultats de ce samedi, le Bayern qui a battu le Werder 1-0, Gladbach qui s'est incliné à domicile 2-1 face au RB Leipzig, Augsbourg qui a mis une claque, alors c'est plus qu'une claque, 6-0 face au Stuttgart de Benjamin Pavard. Demain il y a Fribourg Dortmund. Avec ce succès, le Bayern sera sûr de terminer en tête de cette à l'issue de cette 30e journée de Bundesliga. Voilà, grosse pression pour Dortmund demain, David.
Exactement, et d'ailleurs l'entraîneur du Bayern, Kovac, on lui a posé la question qui a la pression en cette fin de saison, est-ce qu'il vaut mieux jouer avant, est-ce qu'il vaut mieux jouer après, et lui a répondu clairement, il a exprimé l'idée qu'il fallait jouer avant, c'était plus simple, ça permettait de jouer à sa main et de ne pas avoir à subir le fait d'avoir un retard, les 4 points de retard là que Dortmund va devoir combler demain, et ça sera pas facile, parce que dans la forêt noire, on a vite fait de perdre des points avec cette équipe de Fribourg qui est très très combative, et voilà.
Et qui avait embêté le Bayern.
Exactement, oui, Ali, régulièrement, et c'est pour Dortmund un déplacement qui est pas évident, vraiment la fin de saison pour les deux est piégeuse, hein. On le sait que pour le Bayern, les deux dernières journées, il y aura un déplacement chez Leipzig qui est troisième et qui a gagné ce soir dans un match très important, disputé contre Gladbach, qui est troisième, et il y aura le dernier match aussi contre Francfort, qui sera peut-être encore en position d'une place européenne. Il y a vraiment, derrière le Bayern, dont on peut dire un mot, je vais résumer le match dans un instant, mais il y a vraiment un suspense très intéressant pour les places qualificatives pour l'Europe, pour la Ligue des Champions. Hoffenheim a été impressionnant ce soir, est allé défoncer Schalke, si je puis dire. Ils les ont vraiment matés, je crois 5-1 ou 5-2, je sais même plus le score exact. 5-2, avec d'ailleurs deux buts de Belfodil, il en est à 16 cette saison.
Une grosse saison.
Belfodil, l'ancien Lyonnais. Ouais, super saison. Il y aura donc Hoffenheim qui va être là jusqu'à la fin. Francfort est là jusqu'à la fin. Il y aura le RB Leipzig aussi. Gladbach est un tout petit peu distancé, mais
ils ont qu'un point de retard sur l'Eintracht. Alors, l'Eintracht qui a pas encore joué, c'est à dire, mais il y a un match qui compte un match en moins.
Oui, exactement. Alors l'Eintracht, la difficulté, c'est que maintenant, il va falloir courir deux lièvres à la fois, parce que bien sûr, maintenant qu'on est dans le dernier carré, on espère une accession en finale, même si Freddy Bobic était invité ce soir à la télévision publique, et il a dit que ce sera évidemment difficile contre Chelsea avec le match retour à Londres. En plus, il y aura que 2000 tickets qui sont offerts aux supporters de Francfort pour aller à Chelsea pour le match contre Chelsea, alors qu'il y a 20 000 demandes. Vous voyez un peu la différence. Voilà, donc c'est vraiment intéressant ce championnat, non seulement pour la lutte pour la première place, mais derrière aussi pour les trois tickets restants pour la Ligue des Champions.
Dis-moi David, c'est la première fois que je vois le Bayern avoir même du mal à domicile pour ce titre de jeu, ce titre oui. de Bundesliga. 1-0 avec en jouant 11 contre 10.
Oui.
Habituellement, avant, ils arrivaient à dérouler.
Oui, 30-35 minutes à 11 contre 10 avec l'expulsion justifiée pour deux cartons jaunes du défenseur central, d'un des défenseurs centraux du Werder Bremen. C'est marrant parce qu'il y a un match contre le Werder ce week-end donc que le Bayern a remporté vraiment à la fin avec un but sur une frappe contrée du défenseur central Niklas Süle, ça veut tout dire. Et puis ils vont retrouver le Werder, mais cette fois-ci à Bremen. En milieu de semaine, en demi-finale de Coupe d'Allemagne. Donc vraiment, c'est intéressant. Claudio Pizarro avec l'erroné un peu avant le match que le Werder allait essayer d'embêter le Bayern. Ça a été réussi aujourd'hui, même s'il y a une défaite, courte défaite à l'arrivée pour le Werder. Mais le match de Coupe, ce mercredi, sera pas forcément évident pour le Bayern non plus. C'est vrai que le Bayern, alors, on avait dit cette saison que l'un des soucis de ce club, c'était son manque de vitesse. Comme on dit en Allemagne, es braucht mehr tempo, il y a besoin de plus de vitesse. Bon, le Bayern a du mal à accélérer cette saison. Ça a été un peu mieux en deuxième période, avec notamment un Gnabry intenable. Mais il me rappelle un peu le Juli d'il y a quelques années, c'est-à-dire un super joueur, très difficile à intercepter pour les défenseurs. Mais derrière, ça finit souvent mal les actions. Avec Serge Gnabry, ça s'est vu aujourd'hui. Mais après, on a toujours des joueurs qui peuvent débloquer une situation. Thiago Alcantara, Lewandowski a été malheureux aujourd'hui, mais évidemment, qui va encore être important pour la fin de saison. Voilà, donc maintenant, on le disait en préambule, c'est Dortmund qui a la pression contre Fribourg demain. Il y a vraiment un beau mano à mano en cette fin de saison entre les deux, et c'est dû au fait qu'il y a finalement peu de différence. Quoi. Il n'y a pas un Bayern dominateur comme les dernières saisons.
Et alors attends, dis-nous un mot quand même, parce qu'on en parle pas souvent, mais de Stuttgart là qui perd 6-0 oui. À Augsbourg.
Oui.
Stuttgart alors qui est barragiste, hein, ils sont 16e l'équipe de Benjamin Pavard là.
C'est la grande chance de Schalke cette saison d'avoir trois équipes plus faibles que derrière. Stuttgart risque fort de descendre ou au moins de disputer les barrages. Le 16e de Bundesliga dispute les barrages. Le 17e et le 18e descend. Figurez-vous que ce soir, l'entraîneur de Stuttgart, Weinzierl, a été limogé. C'était attendu. Saison très très galère.
Il est comment Pavard, David?
Bah, il est à l'image de son club.
Il est nul, non?
Oui, on va pas se mentir. Hein. C'est une saison où sur les réseaux, je peux vous dire que sur les réseaux sociaux, ça se moque gentiment en disant, même les journalistes allemands disent, mais vous êtes sûr qu'il est champion du monde de foot, ce jeune homme? Alors là, je suis un peu dur.
En plus, il joue à son poste préférentiel là-bas.
Bah, oui, défense à trois dans l'axe, ouais.
Après, c'est aussi pour ça que le Bayern l'a fait venir, c'est-à-dire qu'on espère pouvoir jouer sur sa polyvalence.
C'est quand même incroyable que le Bayern ait mis autant d'argent sur lui, quoi. C'est l'arnaque du siècle, quoi.
On verra. Ça étonne pour l'instant.
Vous l'avez trouvé bon déjà, vous, Pavard?
Non, mais attends de voir ce qu'il donnera au Bayern.
Les dirigeants du Bayern ne sont pas aussi
d'accord
que ça.
Est-ce que tu l'as déjà trouvé très bon en Allemagne, en club? Je te dis pas bon, mais très bon. Niveau Bayern.
Il a déjà réussi à porter son équipe dans le sens défensif évidemment parce que c'est pas un joueur formidablement offensif, mais en
ça
fait
c'est
clair que non mais pourquoi le Bayern l'a pris? Parce que le Bayern a une tendresse avec les joueurs français, parce qu'il y avait une espèce de hype avec la Coupe du Monde, et clairement pour l'instant il y a un miroir déformant en sa faveur. On va lui donner quand même sa chance.
On verra quand il jouera au Bayern, entouré de très bons joueurs aussi
et qui jouera pas le maintien. David, avant qu'on se quitte, il faut que tu nous traduises ton synthé. Eine grosse Spannung.
Ah bah c'est une grosse tension, mais dans le sens tension, dans le sens
suspense,
côté,
non?
Voilà, un côté électrique, dans le sens qui peut être intéressant aussi. Une d'accord. grande tension, ouais, mais c'est tout à sa raison.
Eine grosse Spannung.
Voilà. Il y a beaucoup
de. Il faut dire aux femmes ça.
Il y a beaucoup de.
Mais pourquoi je me regarde comme ça?
Beaucoup d'étages cette saison en Bundesliga qui sont
tension
très disputés, le titre, les places européennes on l'a dit, et derrière aussi ça se bagarre pour pas descendre, sachant que Nuremberg et Stuttgart qui sont deux places fortes du foot sont très très mal en point quand même cette saison. Schalke va se sauver sans doute parce que derrière il y a plus faible.
Merci beaucoup mon David.
Ciao David.
Salut, bonne soirée, bonne nuit à toi. Ciao David.
Ciao
David. Accueillons maintenant Julien Laurence. Parce que là, s'il y a un suspense de taré en Angleterre, la première ligue avec mon Juju. Comment il va Julien Laurence?
Ça va très bien, bonsoir à tous.
Salut,
Manchester City qui a été éliminé cette semaine en quart de finale de Ligue des Champions face à Tottenham. Rejouer face à Tottenham à l'Etihad cet après-midi, c'était pas du tout le même match. Victoire 1-0 des Sky Blues. C'était même, franchement, disons-le, c'était un peu chiant même comme match, Julien.
Ouais, clair.
C'est vrai. La grande question, c'était surtout comment tu gères un match par un autre match entre ces deux équipes-là après ce qui s'est passé mercredi soir. Bien sûr, surtout côté Manchester City. Est-ce que tu as la force mentale et la force physique aussi et psychologique de revenir, de retrouver le, de regagner encore et d'être et de trouver les ressources quelque part en toi pour te venger dans un sens, ou alors est-ce que tu t'y es pas remis encore de cette défaite incroyable, enfin de cette victoire, mais de cette élimination incroyable avec tout ce qui s'est passé dans les dernières minutes de ce match, et tu continues à t'enfoncer? C'était la grande question que tout le monde se posait ici, et ils ont répondu
merci Bernardo gagnant. Silva aujourd'hui, hein, parce que c'est fait un match énorme.
Moi, ouais, il prend le petit pont de la saison aussi. Hein.
Ah ouais,
il prend un petit pont légendaire de Dele Alli. Mais alors, Dele Alli lui a mis très très cher sur le petit pont. Mais sinon, tu as raison. Ouais. Ouais. Dans le reste de la performance, notamment aussi sur le but où il fait la différence, il est très bon. Il a été très bon toute la saison. Et d'ailleurs, il fait partie des joueurs nommés pour le titre de joueur, donc joueur de la saison, voté par les joueurs eux-mêmes de Première Ligue. Donc il y aura un trophée des journalistes.
Alors, on rappelle d'ailleurs la liste. Alors, il y a Bernardo, il y a Agüero, il y a Sterling, il y a Van Dijk et Mané. Voilà, il n'y a pas Salah notamment.
Hazard aussi.
Voilà ça.
Elle fait débat cette liste, mais j'imagine que oui, comme tous les ans. Mais
non, mais cette année, il y a personne qui se détache, contrairement aux dernières années où il y avait vraiment Salah était incontestable ou Kanté était incontestable.
Moi, Van Dijk, j'aimerais bien que ce soit lui, moi, tu. Un défenseur. Franchement, il a tout changé à Liverpool, ce mec. Hein.
Bah, moi, j'aimerais bien que ce soit Mané quand même.
Mané, il est énorme.
Tu vois qui, Julien, toi, en Angleterre?
Il a apporté une stabilité.
Je pense que si Liverpool est champion d'Angleterre, ou quasiment, au moment des votes, au moment où les joueurs voteront, je pense que Van Dijk a une grande chance de l'emporter.
D'ailleurs, c'est intéressant, ça, les votes, ils se font quand?
Exactement. Alors tu pouvais le faire à partir, je crois, du mois de mars.
Déjà...
Donc par exemple, je crois que Van Dijk a dit l'autre jour qu'il avait voté pour Eden Hazard. Après voilà, il me semble, pour Sterling. Donc tu peux après ils ont aujourd'hui annoncé les nommés qu'aujourd'hui, mais les joueurs eux-mêmes les connaissent, je crois, depuis un peu de temps quand même. Et donc t'as encore un peu de temps pour voter aussi. Donc ce sera intéressant de voir. Je pense que Van Dijk est quand même bien placé pour surtout si Liverpool après est champion.
Alors du coup, Manchester City, alors qui compte un match en moins qui sera joué mardi et qui est le derby face à Manchester United. Pour l'instant, City est en tête avec un point d'avance sur Liverpool. Liverpool qui jouera demain à Cardiff. Elle est quand même complètement dingue, cette course au titre en Angleterre. Je crois qu'il y a déjà eu 26 ou 27 changements de leader depuis le début de la saison. C'est complètement lunaire, quoi.
C'est complètement lunaire, et puis à chaque fois, comme l'un joue toujours avant l'autre, forcément. Donc City a mis la pression sur Liverpool aujourd'hui. Liverpool joue demain, et en cas de victoire à Cardiff, ce que en tout cas sur le papier est plutôt probable, ils vont remettre la pression sur City. Donc comme tu l'as dit, qui joue à Old Trafford contre United mercredi dans le derby de Manchester, qui semble vraiment être le dernier obstacle. Après, tout peut se passer dans le football, on sait, mais après il reste trois matchs qui sont largement abordables pour cette équipe de City. Et comme Guardiola l'avait dit à la veille du match de Ligue des Champions contre Tottenham, il avait dit cette semaine à venir là, avec les deux matchs de Tottenham et celui de United, c'est la semaine de tous les dangers pour nous. C'est la semaine cruciale. Ça fait longtemps qu'on est concentré sur cette semaine-là, parce qu'on sait qu'on peut tout perdre ou encore tout rêver d'encore tout gagner à la fin de cette semaine. Ils ont perdu la Ligue des Champions aujourd'hui. Plus que jamais, ils sont dans la course pour le titre, et on verra mercredi après. Mais
ça va être ça.
C'est vrai qu'après ces deux matchs-là,
Liverpool aussi a des matchs abordables, mais le problème, c'est qu'ils ont la Ligue des Champions entre temps, et que ça, ils risquent de
voler ses pubs. Ça, c'est clair.
Les recrues qui ont été payées très cher cet été ont mis du temps à s'adapter, mais là j'ai l'impression que contrairement au début de saison, ils peuvent vraiment compter sur eux. Je pense à Naby Keita, à Fabinho, qui
c'est pas le cas de Van Dijk, il y en a deux qui l'ont fait vite aussi.
Comment?
Van Dijk, lui, il a pas mis de temps à s'adapter.
Non, mais ce que je te dis, c'est qu'en début de saison, ils ont un effectif qui est peut-être un petit peu plus profond par rapport au début de saison, où tu vois Naby Keita et Fabinho n'étaient pas encore incorporés vraiment à l'effectif.
Première Ligue.
Mais nous, n'oublie pas qu'ils ont pas leur destin en main non plus, hein. Ça veut dire qu'ils peuvent gagner tous les matchs qui restent. Donc Cardiff demain, après contre Huddersfield, à Newcastle, qui semble être le seul vraiment piège. Où ils pourraient peut-être qui pourrait être piégeux. Tu as raison, surtout face à Rafael Benitez, donc leur ancien entraîneur. Et après tu finis à domicile contre Wolverhampton, qui est déjà un peu en roue libre et tout ça.
C'est pas fini la 7e place, hein.
Oui, c'est pas fini, mais voilà, tu peux quand même penser que pour Liverpool c'est abordable, sauf qu'ils peuvent gagner tous ces matchs-là et style et donc gagner tous ces matchs-là, finir avec 97 points, ce qui donc normalement tous les ans t'es champion, sauf la saison dernière où City avait eu 100 points, avoir qu'une seule défaite dans tout le championnat, donc 37 matchs sans défaite et une défaite pour le 38e et quand même ne pas être champion, ce qui serait assez incroyable.
Merci beaucoup Julien Laurence.
Ciao.
Ciao. Bonne nuit Julien, à très vite. Tiens, et rendez-vous du coup demain hein, sur RMC Sport avec le match entre Manchester United et Everton. Hein. Ce sera 14h30 qu'on envoie de ce match. On sera sur RMC Sport hein, à partir de 14h. Et puis donc deux matchs à suivre demain simultané également sur RMC Sport. Il y aura Cardiff Liverpool. Si Cardiff perd, Cardiff sera relégué en Championship. Liverpool qui doit s'imposer pour reprendre la première place. Et à 18h il y aura aussi Arsenal face à Palace. C'est vrai que la défaite de Tottenham cet après-midi, elle est très importante. Tottenham peut descendre du top 4 si Arsenal et Chelsea s'imposent. Mmh, ouais. Et donc ne pas être en Ligue des Champions la saison prochaine, à moins qu'ils la remportent.
Mais Arsenal va gagner, je pense.
Merci beaucoup, les gars.
Pas de soucis.
Merci à tous.
Très gros Saint-Etienne. Reims demain.
Ouais. Merci, Jonathan.
C'est bon, la Ligue 1.
Merci, Simonet. Merci, Ali. Merci, Jérôme Thomas. Merci, Daniel Torres. Merci, Adrien également, qui était au standard. Merci à toutes et à tous, les équipes techniques et éditoriales. Merci à la France. Et à demain. De la République.
RMC. L'After Foot.